Bon réveil à tous, il est 5h.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Est-ce que le message va être bien compris par les Français? Le virus est toujours là.
On retire le masque dehors, mais on reste prudent, préviennent les médecins, pour éviter de précipiter une quatrième vague épidémique. L'étape particulièrement ciblée d'Emmanuel Macron, qui sera aujourd'hui dans l'Aisne, sur les terres de Xavier Bertrand, et ce à 3 jours des élections régionales. Décryptage politique dans ce journal. Et puis un tout petit réchauffement des relations entre les États-Unis et la Russie. Nous ferons le bilan de la rencontre d'hier à Genève entre Joe Biden et Vladimir Poutine.
À suivre les sports, notre pressing du matin, et puis nous serons au Pays Basque chez notre fromager pour les doigts dans l'assiette. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'été arrive et l'allègement des restrictions sanitaires s'accélère. À l'issue du Conseil des ministres hier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le port du masque ne serait plus obligatoire en extérieur. La mesure s'applique dès aujourd'hui, là tout de suite. Le couvre-feu, lui, sera levé à partir de dimanche soir. C'est 10 jours avant la date prévue. Alors, Victor Dolande, dites-nous, sur quels éléments s'appuie le gouvernement pour prendre ses décisions ?
Alors en fait, le gouvernement s'appuie sur des très bons chiffres, même meilleurs que ce que prévoyaient les épidémiologistes. Il y a actuellement 3500 nouveaux cas de coronavirus par jour en moyenne, soit une baisse de 40% sur la dernière semaine. C'est simple, on n'avait plus atteint un niveau de contamination aussi bas depuis la mi-août 2020. La pression diminue également dans les hôpitaux. Pour l'infectiologue Benjamin Davido, lever le port du masque à l'extérieur se justifie car les contaminations sont 20 fois moins importantes qu'à l'intérieur. Il est en revanche plus circonspect sur la levée anticipée du couvre-feu.
La question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que le message va être bien compris par les Français ? Et donc il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a plus ou pas de restrictions, qu'il ne faut pas faire attention et que le virus est toujours là. Et donc que les gestes barrières et les mesures de distanciation s'appliquent toujours, ainsi que le masque en intérieur.
Selon lui, il va falloir redoubler les messages de prévention, notamment auprès des jeunes. Il va falloir aussi continuer à tester pour bien remonter les chaînes de contamination et surtout accélérer la vaccination durant l'été pour se rapprocher un peu plus de l'immunité collective.
Merci Victor Dolande, spécialiste santé d'Europe 1.
Et on verra probablement aujourd'hui le président tomber le masque lui-même. Troisième étape du Tour de France d'Emmanuel Macron qui se rend aujourd'hui dans un village de la Somme, puis dans l'Aisne.
Oui, échange avec des élèves sur l'éducation et sur la lecture, en particulier à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Sauf qu'il y a aussi le calendrier. Nous sommes à 3 jours du premier tour des élections régionales. Ce déplacement dans les Hauts-de-France ne serait pas innocent. L'Élysée se défend de toute manœuvre politique. Pourtant, Jean-Rémy Baudeau, à travers cette journée consacrée à la culture, Emmanuel Macron va bien faire de la politique.
Oui, depuis plusieurs semaines, le chef de l'État s'investit sur le terrain en allant à la rencontre des Français. Quoi qu'en dise l'Élysée, il fait clairement de la politique. Il ne faut pas le sous-estimer, il fait ce qu'il faut, explique une ministre. En ligne de mire, notamment, la lutte contre le RN. À l'Élysée, on l'a théorisé depuis longtemps, c'est dans les territoires qui semblent les plus abandonnés par l'État que le vote d'extrême droite prospère. C'est le cas notamment à Villers-Cotterêts, où Emmanuel Macron finira sa journée. Ville RN depuis 2014, son château, longtemps en ruine, deviendra l'an prochain la cité internationale de la langue française. Emmanuel Macron veut en faire un symbole. Une présence sur le terrain qui aura tout de même peu de chance de modifier les équilibres en vue de dimanche. La liste LREM est autour de 10% d'intention de vote dans les Hauts-de-France. Si un seul déplacement du président pouvait changer la donne, ça saurait, sourit un conseiller. Selon nos informations hier dans le huis clos du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a invité son gouvernement à, je cite, « ne pas tirer des leçons nationales des résultats de dimanche prochain ». Comme s'il préparait lui-même les esprits à une certaine déroute électorale.
Jean-Rémy Baudeau, du service politique d'Europe 1.
5h04 sur Europe 1, c'est un procès que nous avons suivi jour par jour depuis une semaine, celui de l'assassinat de Gilly Dwib en Corse. Et le verdict est tombé hier.
Oui, perpétuité pour Bruno Garcia Cruciani avec une période de sûreté de 22 ans. La cour d'assises a donc bien reconnu la préméditation. C'était important dans le geste de l'ancien conjoint de la victime. Il l'a tué par balle en mars 2019. Ce féminicide avait eu un retentissement très fort dans l'opinion publique, amenant quelques mois plus tard au Grenelle des violences conjugales. Hier, Bruno Garcia Cruciani a aussi été privé de son autorité parentale sur ses deux fils, ce qui en soi est un soulagement pour Lucien Dwib, le père de la victime.
On va pouvoir me libérer de ce combat qu'on mène, ce combat juridique. Le combat contre la violence faite aux femmes, je continuerai tout ça. Ça c'est clair et net, mais on va pouvoir avancer différemment. Eux, ils vont pouvoir dire... Ça y est, on respire. Ils n'auront plus que 6 mois à se demander ce qu'ils vont devenir. Et nous aussi, on n'aura pas à chaque fois à se demander qu'est-ce qu'on doit fournir, qu'est-ce qu'on doit faire pour enfin vivre, enfin être libre. Ça fait 2 ans et demi qu'on a une épée de Damoclès sur la tête. Et bien on va pouvoir vivre. Voilà, et c'est, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. On pense à Julie depuis 2 ans et demi. Donc le verdict nous a, si elle est là-haut et qu'elle nous écoute, j'espère qu'elle sera contente de nous.
Lucien Douib, au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bastia, Marion Dubreuil.
Joe Biden a quitté l'Europe après une semaine de rendez-vous diplomatiques, le G7, l'OTAN, le sommet avec l'Union européenne et enfin hier, cette rencontre avec Vladimir Poutine.
Oui, les relations Russie-États-Unis s'étaient tendues ces derniers mois. On a vu hier une poignée de main, puis la conversation loin des caméras qui a duré 4h30. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les divisions restent apparentes, mais il y a tout de même eu quelques avancées.
Oui, à commencer par le retour des ambassadeurs à Washington et à Moscou. Ils avaient été rappelés après la petite phrase « Poutine est un tueur » prononcée par Joe Biden au mois de mars. D'après le président russe, les deux chefs d'État se sont engagés à ouvrir des discussions sur la cybersécurité. Vladimir Poutine a salué une rencontre sans hostilité et très constructive, rejoint sur ce point par Joe Biden.
« I did what I came to do. »
« J'ai fait ce que j'étais venu faire. Le ton de toute la réunion était bon, positif. » Je ne pense pas qu'il cherche une guerre froide avec les États-Unis. Ce n'est clairement dans l'intérêt de personne. Deux dirigeants satisfaits, mais un sommet sans grande annonce. Le fossé entre les États-Unis et la Russie reste large. Interrogé sur les atteintes aux droits de l'homme dans son pays, Vladimir Poutine a rétorqué en pointant les violences policières aux États-Unis et l'attaque contre le Capitole. Des comparaisons ridicules, a répondu Joe Biden. Au cours de cette rencontre, le président américain a dressé des lignes rouges sur l'ingérence électorale et les cyberattaques et il a promis de répondre si la Russie viole ses normes fondamentales.
Merci Alexis Guilleux en ligne de New York pour Europe 1.
On appelle ça un pastiche, imiter le style de certains écrivains connus.
Oui, c'est ce que fait l'auteur Pascal Fioretto qui publie aujourd'hui L'anomalie du train 006. C'est un roman où les lecteurs avisés reconnaîtront en fait leurs auteurs préférés. Nicolas Caro a lu ce livre en avant-première pour nous.
Toute ressemblance avec des écrivains connus n'est pas du tout fortuite. On doit déjà à Pascal Fioretto « Et si c'était niais » ou « L'élégance du cornichon », à chaque fois, même exercice, créer un roman inédit en imitant le style de certains écrivains. Dans son nouveau livre, il nous emmène dans un train reliant Paris à Brive-la-Gaillarde. Il n'y a là que des auteurs et à chaque chapitre, on change de voix. C'est d'abord un certain Joël qui raconte en essayant de créer un maximum de suspense. On aura reconnu Joël Dicker. Puis c'est Virginie dans un style très rock. Virginie Despentes, bien sûr, puis Emmanuel, c'est-à-dire Emmanuel Carrère, Aurélie Valogne ou Sylvain, qui grimpe partout et écrit des choses comme « On n'allait jamais chercher trop haut l'envie de ne pas être en bas » et on identifie tout de suite le style de Sylvain Tesson. Jamais de moquerie, c'est un jeu. D'ailleurs, à part 2 ou 3 ronchons, la plupart des écrivains sont ravis d'être pastichés. Pascal Fioretto.
De manière très sympathique, Amélie Nothomb m'avait dit avec beaucoup d'ironie « C'est formidable, mais vous n'avez lu que mes 10 premiers livres » ou dernièrement, la Sylvain Tesson qui m'a dit « Je me suis beaucoup marré, mais en vrai, je suis bien pire que ça. »
Et celui qui pousse encore plus loin l'autodérision, c'est Hervé Le Tellier, le prix Goncourt, qui signe la préface de ce livre très drôle.
Nicolas Caro, le spécialiste des livres à Europe 1, on rappelle le titre, hein, « L'anomalie du train 006 », un livre qui est publié aujourd'hui. Et puis, cette information, c'est un petit événement dans le monde du spatial. Vous connaissez, on en parle souvent avec Thomas Pesquet, la Station Spatiale Internationale. Eh bien, la Chine est en train de construire sa propre station concurrente de l'ISS. Et cette nuit, il y a tout juste 2 heures, la fusée Longue Marche, c'est le nom des fusées chinoises, est partie avec 3 astronautes, taïkonautes comme on dit, vers ce palais céleste. C'est le nom de cette station en construction, station chinoise.
Et nous serons en Chine tout à l'heure avec notre correspondant pour parler de ce départ vers l'espace de cet équipage chinois. La revue de presse internationale tout à l'heure à 6h50. Merci, c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, 5h10. Et bonjour les Nike Monnier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports avec déjà un premier qualifié pour les 8e de finale à l'Euro.
Et c'est l'Italie qui a encore séduit hier avec un jeu très offensif. Pour preuve le score, 3-0 face à la Suisse. Ça fait 2 matchs et autant de victoires pour la Squadra Azzurra. Avec ce score-là, l'Italie de retour au plus haut niveau après son absence en Coupe du Monde il y a 3 ans. Et pour notre consultante Aline Riera, aucun doute, c'est l'effet Mancini.
Ce qui fait la force de cette équipe italienne et ce pourquoi elle arrive à tenir, parce que c'est un jeu qui est très énergivore et en même temps, le fait de tout de suite être concerné par la récupération du ballon à sa perte, on est toujours très haut dans le terrain, donc on fait moins de courses vers son but pour défendre et on est très proche du but adverse. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment de Mancini, c'est ce contre-pressing tout de suite et puis l'envie d'aller chercher la solution vers l'avant.
La consultante d'Europe 1 pendant l'Euro, Aline Riera.
Pendant ce temps, les Bleus, eux, sont arrivés à Budapest.
Ils jouent demain leur prochain match face à la Hongrie, donc samedi après-midi. Hier, on a pu voir Benjamin Pavard assister au décrassage des Bleus, rassurant après le choc reçu pendant le match face aux Allemands. D'ailleurs, le syndicat des joueurs pros s'est ému hier de l'avoir vu reprendre la rencontre, sans que soit appliquée la charte des commotions cérébrales. Entraînement donc normal pour le joueur et des Bleus qui restent plutôt en forme. C'est Raphaël Varane qui était en conférence de presse hier.
Évidemment, ça nous fait plaisir de savoir qu'on est suivi à travers le monde entier et savoir aussi qu'il y a des millions de Français qui nous supportent. C'est une motivation supplémentaire et c'est une force pour nous. Le public nous a beaucoup manqué ces derniers mois. On a envie de leur transmettre des émotions et réaliser des belles performances.
Le défenseur Raphaël Varane qui a fait un très bon match, hein, lui aussi contre l'Allemagne, il s'est bien distingué.
Un autre Euro débute aujourd'hui, celui de basket pour les Françaises.
Oui, à Strasbourg, avec du public, la France, quatre fois vice-championne d'Europe sortante, affronte pour son premier match la Croatie. Le tournoi s'achève le 27 juin et ensuite il faudra déjà préparer les Jeux Olympiques. Un sacré enchaînement, nous dit l'arrière Marine Johannes.
Je pense qu'au tout début, on ne se rendait pas compte de la chance qu'on allait avoir. C'est assez unique. Ça va être, je pense, j'espère, une des rares fois où on va pouvoir faire deux compétitions en un été. Donc, il faut prendre ça comme du positif. Nous, en tout cas, on est très excités à l'idée de faire ces deux compétitions. Ça va commencer par ce CE et après, on y pensera plus tard au JO.
La toute jeune arrière Marine Johannes, interrogée par Axel May.
Les circonstances de la mort de Diego Maradona restent toujours floues.
Oui, après 7 mois après sa mort, hein, a-t-il été abandonné à une lente agonie faute de soins adéquats ? L'infirmière Diana Madrid était entendue cette nuit par le parquet de San Isidro. Ils ont tué Diego, voilà ce qu'elle affirme. Ils, ce sont ceux qui ont administré des psychotropes ayant accéléré le pouls de l'ex-joueur, alors même qu'il était traité pour une maladie du cœur. Maradona qui est mort le 25 novembre 2020 à 60 ans.
Lénaïque Monnier pour l'Espagne. Merci, à tout à l'heure. Il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de la Teste et mon pari gagnant sera le 304 Gélinotte. Très confirmé sur cet hippodrome de la Teste où elle excelle, comme le prouve sa dernière victoire obtenue le 16 avril sur le même parcours que celui qu'elle empruntera cet après-midi. Je sais que cette jument, sérieuse et généreuse, est restée depuis dans un état de forme optimal, ce qui devrait lui permettre, sur sa lancée, de doubler la mise. Alors notez bien, pour cet après-midi à la Teste, réunion 1 dans la troisième course, le numéro 4, Gélinotte.
Merci Thierry Léger et on vous retrouvera dans 20 minutes pour les pronostics du quintet du jour. A tout à l'heure.
Europe 1.
Il est 5h13 sur Europe 1. On se réveille tranquillement, on démarre la journée, on jette un œil aux journaux du matin. C'est notre pressing dans un instant. Ombline, qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse ?
Si vous aviez prévu de vous marier depuis un an et demi, vos plans ont dû être sacrément bousculés. Cérémonie reportée, ambition revue à la baisse, hein, le nombre d'invités notamment. Qu'en est-il du voyage de noces, tiens ?
Ah, on va parler de voyage de noces.
On va loin.
Et puis on parlera du bac philo. Tiens, à quoi sert la philo ?
Voilà, on a combien de temps ?
Ça pourrait presque être un sujet. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Précisément 5h15 sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est le marathon des élections régionales. À 3 jours du vote, les candidats et leur soutien se démultiplient. Marine Le Pen sera en région PACA aujourd'hui aux côtés de Thierry Mariani, Christian Jacob dans les Hauts-de-France, avec Xavier Bertrand, Olivier Faure dans le Grand Est. Quant à Jean Castex, il va passer par 3 régions en une seule journée. 500 000 candidats au bac général et technologique commencent leurs épreuves aujourd'hui. C'est la philo qui ouvre le bal. Signe que l'épidémie recule plus vite que prévu, le masque n'est plus obligatoire en extérieur dès aujourd'hui. Idem pour les élèves dans les cours de récréation. Le couvre-feu sera levé, mais à partir de dimanche, avec 10 jours d'avance. Et puis Rémi Daillé, formellement mis en examen pour complicité d'enlèvement. L'homme arrêté à son retour de Malaisie est soupçonné dans l'affaire de la petite Mia. Ancien membre du Modem, il a critiqué hier au tribunal les défaillances, selon lui, de l'État français. Et il se dit désormais candidat à la présidence de la République.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Ombline Roche et Martin Lange. On commence par notre petit coup d'œil aux unes de vos journaux. Et il y a des visages à la une, des visages et tous les jeux de mots possibles. Bah, les masques en une du Progrès ou de Midi Libre. Enfin, les masques tombent dans la République des Pyrénées. On tombe le masque dans l'Alsace. Enfin, un seul mot à la une du Dauphiné Libéré. Le sourire retrouvé, ça c'est dans l'écho républicain. On respire, s'exclame Libération avec cette photo de masque jeté en l'air. Enfin, il faut les ramasser après quand même, les mettre à la poubelle. Et puis vous lirez dans Le Parisien aujourd'hui en France comment Emmanuel Macron a pris cette décision de lever l'obligation et de lever le couvre-feu plutôt que prévu. Castex siffle enfin la fin, ça c'est le titre du Figaro, le masque. Et adieu, le couvre-feu, ça c'est la une de la Charente Libre. Enfin, le bac à la une de Ouest-France qui s'interroge, quel est le niveau des élèves ? Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et Ambline, on va rêver un peu de voyage.
Oui, voyage de noces, hein, comme les mariages, même s'ils sont reportés. Et malgré les frontières longtemps restées fermées, le Figaro nous dit que les voyages de noces ont toujours la cote. Car malgré une chute de 31% de mariages célébrés en 2020 par rapport à 2019, eh bien 155 000 unions ont eu lieu. Donc la tradition tient bon. Les voyages aussi, les tourtereaux partiront. Alors bon, en 2022, en 2023. De toute manière, ce genre de voyage, en général, s'anticipe. Alors, une année de plus ou deux, les mariés patientent bien volontiers. Où vont-ils ? Un pays vert ou orange ? Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Une couleur qui sert d'indicateur sanitaire selon le niveau de circulation du virus. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'on pourra s'y rendre. L'Australie et le Japon refoulent encore aujourd'hui les touristes français. En tout cas, certains mariés souhaitent aller loin. Bali, Polynésie, Seychelles, le pilotis dans l'océan turquoise, ça fait toujours rêver. Mais une nouvelle tendance est en train de se dessiner, aidée par le Covid. Des mariés éco-responsables, on ne va pas loin quand on part moins d'un mois. Nombreux sont ceux qui vont voyager en Europe, en Italie par exemple, témoigne un couple. Autre nouveauté, toujours aidé par le Covid, le voyage de dernière minute, ce qui n'existait quasiment pas avant la crise sanitaire, nous dit un opérateur. Si certains mariés patientent, on en a parlé, d'autres ne prennent pas de risques et ils font leur pactage le soir même. En gros, on part du jour au lendemain.
Okay.
Voilà, on ne prévoit plus, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Et puisqu'on parle d'innovation en termes de voyage de noces, alors j'attire votre attention sur un petit encart dans cette double page du Figaro, les lunes de miel du 21e siècle. Les opérateurs organisent des circuits humanitaires, voilà, mariés et bénévoles. Il y a aussi le...
C'est un concept.
C'est pas le pire. La Buddy Moon, on part avec les copains. Alors, on part pas en couple, on fait un voyage
ça, c'est plusieurs. Pas la même chose, c'est l'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille en même temps que le voyage de noces.
C'est ça, on fait un combo. Ou alors le Solo Moon. Alors ça, c'est un concept. Hein. Les jeunes mariés partent chacun de leur côté. Voilà. Chacun a droit à son séjour d'introspection.
C'est bien la peine de se marier.
Mais en fait, c'est le développement de soi, le développement personnel, l'introspection. Donc chacun part dans son coin.
Pour être sûr qu'on a fait le bon choix, peut-être.
Je sais pas, moi je suis pas convaincue non plus. En tout cas, les voyages de noces sont-ils à la traîne ? C'est la question posée dans le Figaro ce matin.
Autre sujet, le bac donc démarre ce matin, on en parlait tout à l'heure, 500 000 élèves vont plancher sur la philo aujourd'hui. Mais au fait, à quoi sert la philo ? La question est posée par Le Parisien aujourd'hui en France. C'est vrai, ça, qui ne s'est jamais posé cette question en se cassant la tête sur un sujet pendant des heures ? Alors, c'est vrai que lors d'un entretien d'embauche, la note au bac philo, c'est pas la première chose qu'on vous demande. Et c'est une DRH qui le reconnaît dans Le Parisien. Pourtant, c'est l'épreuve qui concerne toutes les filières. C'est traditionnellement toujours la première. Et la philo est là depuis la création du bac sous Napoléon. Elle perdure depuis 200 ans. Alors, il paraît que la philo s'est modernisée. Un prof constate un regain d'intérêt avec des cafés philo qui se créent. Une autre enseignante reconnaît que bon, c'est pas comme un cours d'anglais qu'on va pouvoir appliquer tout de suite dans la vie quotidienne. Mais il faut y voir une manière de penser et de comprendre. Lire, analyser, argumenter, problématiser. Non, la philo n'est pas qu'une bibliothèque de vieux auteurs. D'ailleurs, dit cette prof, la philo est ancrée dans le monde d'aujourd'hui. Exemple, le sujet du bac donné aux candidats installés en Amérique du Nord, parce qu'eux, ils l'ont déjà passé. Les vérités scientifiques sont-elles définitives ? À cette période de Covid.
Si on voit l'histoire, effectivement, notre passé, on peut se poser la question.
Voilà, et ça fait débat sur tout ce qu'on a entendu sur le Covid ces derniers mois. Et on peut en faire un sujet de philo. Alors, c'est une singularité française, cette épreuve de philo, sorte de grand-messe annuelle. on attend toujours les sujets. C'est vrai, le Parisien explique qu'il n'y a qu'en France qu'on voit les sujets du bac aux 20h le soir.
Ah oui.
Voilà, on les trouve toujours intéressants. D'ailleurs, ces sujets, quand on n'a pas besoin de passer les 4 heures d'épreuve, hein,
bon, on les trouve toujours.
Oh, ça a l'air super ce sujet. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure. On les aura dans la matinée. À quoi sert la philo? Voilà, vous avez 4 heures pour y répondre. C'est dans le Parisien, aujourd'hui en France. Martin.
Oui, Sébastien.
Votre note en philo, c'était combien?
J'ai eu 16, je crois.
Ah, pas mal, ouais. pas mal.
Non, je dirais pas.
Moi, c'était pas autant. C'était compliqué, la philo.
Ce matin, je vais vous parler de deux gestes de footballeurs qui ne sont pas passés inaperçus. Alors, je ne parle pas d'un but ou d'un petit pont, non, mais de deux gestes plutôt anodins en conférence de presse. Alors, le premier, c'était Cristiano Ronaldo, lundi. Il a délibérément écarté 2 bouteilles de coca lors de sa prise de parole, avant de montrer ostensiblement une bouteille d'eau. Connu pour son hygiène de vie irréprochable, CR7 a voulu montrer à la terre entière son aversion pour les sodas. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux au point que le cours des actions Coca s'est effondré à la bourse. La capitalisation de l'entreprise américaine a perdu 4
milliards.
Parce qu'il
a juste écarté une canette.
Voilà, juste en montrant son aversion pour cette boisson. La capitalisation donc de l'entreprise américaine a perdu 4 milliards de dollars en à peine 24 heures. Et mardi, c'est un joueur français, Paul Pogba, qui lui a emboîté le pas. Mais avec une bouteille de bière, cette fois devant les caméras, il la met carrément sous la table. Là encore, la vidéo a fait réagir, même si elle n'a pas eu les mêmes répercussions financières. Mmh. Et oui, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo.
Parce que c'est des bouteilles qui sont mises là sur les tables de conférences de presse pour faire de la pub ou c'est...
Parce que c'est des partenaires de l'Euro, exactement.
Alors ce sont deux gestes qui illustrent une sorte de prise de conscience des footballeurs.
Oui, tout à fait, on l'a vu avec le débat sur le genou à terre. Les footballeurs, notamment français, prennent de plus en plus position dans les débats de société, les débats politiques. Alors, il y a eu les tweets de Kylian Mbappé contre les violences policières, la rupture entre Griezmann et Huawei face au traitement des Ouïghours. Et bien, là aussi, Ronaldo et Pogba refusent d'être de simples hommes sandwich associés à des marques. Pour la santé publique, ou par conviction religieuse, peut-être, ils s'engagent à leur façon, de quoi faire réfléchir les grandes marques sur la question des placements de leurs produits, estime Libération, même s'il ne faut pas oublier, vous le disiez à l'instant, Sébastien, que ce sont ces grandes marques qui financent les événements.
Et
comme
que ces mêmes footballeurs ont tous des contrats quelque part, on les voit dans combien de pubs?
Tout à fait, voilà. Mais ils choisissent, il y a une part de choix dans les contrats qui les marques qu'ils représentent, alors que là c'est des marques auxquelles ils sont associés sans qu'on forcément ait donné leur accord.
Voilà, c'est les sponsors de la compétition.
De la compétition, tout à fait.
Très bien. Cristiano Ronaldo, donc, ne boit pas de coca.
Exactement.
Merci à vous.
C'est l'enseignement de la matinée.
C'était le pressing du jour, 5h24 sur Europe 1.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes au Pays Basque ce matin à Saint-Jean-de-Luz pour les doigts dans l'assiette. Bonjour Benyat Moiti.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes notre fromager, on vous retrouve régulièrement sur le marché de Saint-Jean-de-Luz. Comment ça va chez vous? Vous avez pris les orages aussi parce que chez nous c'est agité là ce matin.
Exactement, ouais. C'est très chaud.
Bon, soyez prudents, dans le sud-ouest, il y a aussi beaucoup d'orages, on va voir ça avec Laurent Cabrol tout à l'heure. Alors vous partagez régulièrement avec nous les fromages que vous découvrez, qu'est-ce que vous avez en ce moment en magasin, en vitrine?
Là je vais vous parler de Julia et Sylvain Aimé, qui sont de la Bastide-Clairance. La Bastide-Clairance, c'est un petit village au-dessus de Bayonne, très joli, avec beaucoup d'artisans anciens du Pays Basque. C'est des bergers transhumants, ils sont en manège tête noire et ils font de la tombe de brebis en AOP et de la tombe d'estive, des petits crottins nature, un gros crottin cendré très crémeux, crapoteux, très gourmand. Et le dernier qui vient de sortir, c'est Julia, elle va avec ses enfants ramasser des fleurs. Comme ça, ça lui permet d'expliquer à ses enfants le nom des fleurs qu'elle ramasse. Et là, elle a fait un petit crottin de brebis nature avec des roses de damas, des soucis et du thym.
Les fleurs sont sur le fromage, enfin autour du fromage?
Elle les couvre autour du fromage et quand à la dégustation, on est sur un côté floral, sur le côté lactique.
D'accord, petit fromage printanier quoi.
Exactement. Dans la fraîcheur comme par rapport au temps d'aujourd'hui, très intéressant.
Qu'est-ce qui vous plaît chez ces producteurs? Ce sont les méthodes traditionnelles, le savoir-faire local?
Oui, c'est des fromages à l'herbe. Tout vient du sol. dès qu'on réfléchit de la base du produit, on arrive à faire des choses, des produits d'exception.
Et bien voilà pour donc cette exploitation, et on les salue, Julia et Sylvain Aimé, du côté de la Bastide. Clarence, on retrouve au fromage donc sur le marché de Saint-Jean-de-Luz, Beignat-Moitié. Je vous dis à bientôt dans les doigts, dans l'assiette. Merci à vous. Ils ont une liaison un tout petit peu compliquée avec Saint-Jean-de-Luz ce matin, peut-être à cause de ces orages. Très bon réveil sur Europe 1. Il est 5h26.
To see again, the sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There is magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's so wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's so wonderful, wonderful life. The sun in your eyes, the heat is in your hair, they seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not stand there on my own. Look at me standing here on my own again, straight in the sunshine. No need to run and hide. It's so wonderful, wonderful life. No need to laugh.
C'est Imani qui reprend ce tube des années 80, Wonderful Life. Et sur son prochain album qui sort début septembre, elle reprend aussi Radiohead, Madonna, Ed Sheeran et même Henry Salvador. On verra ce que ça donne. Il est 5h29 sur Europe 1. Laurent Cabrol, ça y est, les orages sont là. Ça a été violent cette nuit sur Paris. Là.
Oui, les orages sont invités, disons, en avant-première, parce qu'il y en aura d'autres. En avant-première, notamment sur Paris. Il y en a dans l'Oise, il y en a dans le Calvados, à Deauville notamment. Vous avez de la pluie dans la Sarthe, le Finistère. Enfin bref, il fait vraiment très mauvais sur une grande moitié nord. Et tout ceci donc va s'atténuer légèrement dans la matinée, notamment sur Paris. Mais ça va repartir de plus belle dans l'après-midi. Donc ne soyez pas surpris si vous avez encore une zone orageuse qui arrive en deuxième partie de journée sur la capitale. Attention, les orages les plus forts se situeront sur l'Aquitaine en deuxième partie de journée, sur le Poitou-Charentes, sur la vallée de la Garonne, sur le Berry. La vallée de la Loire aussi sera concernée. Elle l'est déjà un petit peu, elle le sera encore. Vous voyez que ça tournicote. Ces orages tournicotent un peu sur une grande partie du pays, une grande partie nord et une grande partie ouest. Et ça devient parfois dangereux. Attention, ils sont dangereux. Et puis des régions qui seront un peu à l'écart, le Massif central, le bassin méditerranéen, l'Alsace, la Franche-Comté et la région lyonnaise. Les températures, bien sûr, chutent avec les orages, mais elles repartent un petit peu derrière, de sorte que vous ne ressentirez pas encore une grande fraîcheur.
Ah, pas encore de rafraîchissement. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
J'ai déjà mon bac parce qu'avec les notes du contrôle continu, j'ai au-dessus de 12. Moi, j'ai quand même révisé un peu, mais histoire de ne pas arriver les mains dans les poches, pour être honnête.
Ils vont plancher sur l'épreuve de philosophie ce matin. Un rendez-vous beaucoup moins stressant qu'à l'accoutumée pour les élèves de terminale qui savent d'ores et déjà que le contrôle continu aura une place prépondérante dans la note finale. L'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn, 6 mois après, son mari et ses beaux-parents ont été placés en garde à vue. Et puis de Munich à Budapest, les Bleus arrivés hier en Hongrie pour leur prochain match de l'Euro. Ce sera samedi. Il va falloir falloir se préparer à retrouver un stade plein et une ambiance bouillonnante.
Après le journal, les touristes étrangers seront-ils nombreux à faire leur retour en France cet été? L'Europe rouvre ses frontières, notamment aux Américains, même non vaccinés. Le pari de l'été 2021, on en parle dans 10 minutes avec Caroline Leboucher, la directrice générale d'Atout France, c'est l'agence de promotion du tourisme.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après une édition 2020 sans épreuve pour cause de Covid, les élèves de terminale renouent aujourd'hui avec les examens du bac, écrit de philosophie ce matin. Une épreuve toutefois aménagée. Seule la meilleure note entre le contrôle continu et la note obtenue ce matin sera gardée. Un contrôle continu qui, en plus, représentera 80% de la note finale.
Bref, les conditions sont réunies pour un bac plutôt serein, comme en témoigne Alexia au micro Europe 1 de Virginie Riva.
J'ai déjà mon bac parce qu'avec les notes du contrôle continu, j'ai au-dessus de 12 dans la plupart des matières. Donc j'ai déjà 11,5-12 de moyenne en philo. Et comme là en philosophie, ils prennent la meilleure de nos deux notes, oui, je vais essayer d'avoir plus, mais si j'ai 12, ça me suffit déjà. Donc ça enlève un stress important. Et je trouve qu'ils auraient peut-être pas forcément dû nous le dire avant parce qu'on est tous pas du tout angoissés. Oui, moi j'ai quand même révisé un peu. Mais histoire de pas arriver les mains dans les poches, pour être honnête. Mais c'est des révisions à trous, oui, en effet, où il y a plein de choses qui sont un peu dans le flou et qu'on connaît pas.
Alexia qui devra plancher ce matin masqué, bureau espacé et nettoyé pour ses épreuves. Le masque d'ailleurs qui tombe dès aujourd'hui en extérieur compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire. Le gouvernement a aussi annoncé hier la levée du couvre-feu. Ce sera pour dimanche.
On en vient à l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Cette disparition cache-t-elle en réalité un féminicide? En tout cas, après 6 mois d'investigation, son mari et ses beaux-parents ont été placés en garde à vue.
L'infirmière de Cagnac-les-Mines dans le Tarn n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre dernier. Depuis, les battues, les recherches organisées n'ont jamais rien donné. Mais hier, l'enquête a pris un tour nouveau. Le récit du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Péter.
C'est tout le clan Jubilard qui est visé. Cédric, le mari de Delphine, mais aussi sa mère Nadine et Olivier, son beau-père. Sa petite sœur s'est présentée à la gendarmerie d'Albi en audition libre avant d'en ressortir en fin de journée. Quant à Séverine, sa nouvelle compagne, elle a été entendue, son domicile perquisitionné. Les enquêteurs s'intéressaient notamment à son téléphone et aux affaires de Cédric. Visiblement éprouvée, elle a pu regagner sa maison hier soir, elle qui me confiait s'être séparée la veille de son compagnon. J'ai voulu l'aider, mais depuis 2 mois, ça ne m'a apporté que des ennuis, me confiait-elle. À l'issue de plusieurs heures d'audition, sans faire de déclaration, l'avocat de Cédric Jubilard a quitté la gendarmerie de Gaillac, où les 3 membres de la famille sont toujours en garde à vue. D'après nos confrères du Parisien, c'est l'analyse de son téléphone qui a révélé des incohérences sur son emploi du temps ce soir-là. Lui qui a toujours déclaré avoir dormi jusqu'à 4h du matin, heure à laquelle il aurait découvert la disparition de son épouse et l'aurait signalé à la gendarmerie. On sait que le couple envisageait de divorcer. Est-ce qu'une dispute aurait pu dégénérer ce soir-là? Les auditions devraient reprendre ce matin pour éclaircir tous ces points. À Gaillac, Benjamin Péter, Europe.
La mise en examen de Rémi Daillé hier soir pour son implication présumée dans l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en avril dernier lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention. Le complotiste a dénoncé les défaillances de l'État, disons même pensé à une candidature à la présidence de la République. Il a été incarcéré à Strasbourg.
La politique est dans 3 jours le premier tour des élections départementales et régionales.
Avec les Hauts-de-France aujourd'hui en première ligne, Emmanuel Macron est attendu sur place dès ce matin pour un déplacement axé sur la culture. À cette occasion, d'ailleurs, elle fera de la lecture une grande cause nationale.
Les Hauts-de-France, où le sortant Xavier Bertrand fait campagne tambour battant sur la route de l'Élysée. Ce scrutin sera déterminant pour lui. Reportage pour Europe 1 de Claudia Bertram.
C'est dans un grand gymnase que Xavier Bertrand a donné rendez-vous à plusieurs dizaines d'élus locaux.
Je voulais vous expliquer de quelle façon on entend continuer à se battre pour vous, à se battre pour les Hauts-de-France.
Micro en main, il détaille ses 3 grandes priorités, l'emploi, la santé et la sécurité. Tout un programme pour ne pas laisser la région au Rassemblement national. Dans un récent sondage, Xavier Bertrand est talonné par Sébastien Chenu au premier tour, mais il se veut confiant.
Comment ça se fait qu'en 5 ans, le Front National a reculé de 8% et que nous avons progressé de 10%? Il doit y avoir une explication. Peut-être qu'on s'est battu pour les gens, peut-être qu'ils le reconnaissent. Nous sommes les seuls, la seule liste qui peut empêcher le Front National de diriger cette région. Tout le monde sait bien que ce sera nous ou eux.
Et cela pourrait se jouer sur le fil au second tour où il est donné à égalité avec le RN si les listes en marche et de gauche se maintiennent. Mais Xavier Bertrand l'assure, aucune alliance n'est envisageable.
Ça sera la même liste et le même projet au premier et au deuxième tour.
Surtout, pas question de réclamer l'aide de la majorité présidentielle alors que Xavier Bertrand veut affronter Emmanuel Macron en 2022. Mais pour ça, il doit d'abord être réélu dans sa région. Attiche, Claudia Bertrand, Europe 1.
Jean Castex et quatre ministres visés par une plainte devant la Cour de justice de la République. Plainte pour inaction climatique déposée par l'eurodéputé Pierre Larouturou et des militants écologistes qui pointent notamment l'insuffisance du projet de loi climat et résilience.
5h36 sur Europe 1. À nous de vous faire préférer le train. Ça, c'était le slogan de la SNCF. Et il semble aussi inspirer ses concurrents.
Oui, notamment cette nouvelle compagnie ferroviaire Midnight Trains, les trains de minuit, une start-up financée par Xavier Niel qui promet pour 2024 des voyages nocturnes tout confort, comme dans une chambre d'hôtel, Aurélien Floreau.
Oui, dans 2 ans et demi, la première destination, ce sera l'Espagne ou l'Italie, donc un Paris-Barcelone ou un Paris-Rome en voyageant dans une cabine privative, seul, à 2, à 4. Pas d'inconnu ronfleur à vos côtés et un service de restauration de qualité. Un positionnement inédit voulu par Adrien Aumont, cofondateur de la plateforme de financement participatif KissKissBankBank.
Notre but n'est pas de faire un produit de luxe. Notre but, c'est de réinventer le standard du train de nuit. Considérer qu'en dessous de ça, ça ne peut pas être compétitif face à l'aviation. Ce principe d'hôtel sur rail, c'est pour recréer du confort. Le train est le moyen de transport le plus durable. Donc on essaie de réinventer cette expérience avec des chambres privatives, des bonnes literies, un beau restaurant. Il faut mettre le paquet si on a envie que les gens quittent l'avion pour monter dans le train.
Avec des tarifs qui devront donc concurrencer les compagnies aériennes qui font du moyen courrier en prenant en compte leurs frais cachés comme pour les bagages, Midnight Trains se présente comme la première start-up ferroviaire française soutenue par des entrepreneurs comme Xavier Niel, le patron de Free. Un deuxième tour de table est attendu à l'automne quand il faudra investir dans le matériel roulant, des trains neufs qui risquent de donner un sacré coup de vieux aux actuels intercités de la SNCF.
Voilà, on attend maintenant le détail des prix de ces futurs billets pour des voyages tout confort. Sur les rails, justement, la menace d'une grève le 1er juillet prochain, mouvement national à l'appel de la CGT et mobilisation en Ile-de-France. Là, ce sont les principaux syndicats qui s'inquiètent notamment de l'ouverture à la concurrence. Au Mexique, les conclusions préliminaires de l'expertise sur l'effondrement d'une ligne du métro aérien à Mexico début mai, des boulons manquants dans les poutres du pont et des soudures non finies ou mal exécutées. La construction est pointée du doigt.
Enfin, direction Budapest, c'est là que l'équipe de France affrontera après-demain la Hongrie pour le deuxième match de l'Euro de football.
Budapest, seul stade à n'avoir pas fixé de jauge pour ces rencontres. L'enceinte sera donc pleine samedi, promesse d'une grosse ambiance, comme en témoigne l'envoyé spécial d'Europe 1, Simon Rubin.
Les Bleus ne sont assurément pas préparés à ce qui les attend dans l'antre de la sélection hongroise samedi. Après 1 an et demi de pandémie, ils vont tous retrouver pour la première fois un stade plein. On ne parle pas de 20 000 personnes comme à Munich, non. Samedi, ils seront 68 000 dans un stade à l'acoustique exceptionnelle. Dans les tribunes, quasiment que des supporters hongrois, évidemment. Et ça donne ça. Des chants incessants pendant tout le match. Sans conteste, Budapest, c'est la plus grosse ambiance de l'Euro. Même les supporters en tribune lors du premier match en Hongrie, comme Norbert, ont été surpris d'une telle énergie.
J'étais surpris qu'avec le Covid, tant de monde se retrouve ici au stade. L'ambiance était géniale. C'est dommage qu'on soit nul, mais 97% du stade, c'était des supporters hongrois. Et c'est ça qui compte.
Alors un tel public peut-il avantager la Hongrie? D'après les études réalisées, pas du tout. En revanche, et toujours d'après des études récentes, oui, cela pourrait avoir une influence sur l'arbitrage.
Simon Rubin à Budapest pour Europe 1 hier. L'Italie a été la première équipe à décrocher son ticket pour les 8e de finale. Victoire contre la Suisse, 3-0.
Marion Calais pour le journal, merci à vous. Il est 6h20. Et on trouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
Direction l'hippodrome de la Teste, tout proche de la baie d'Arcachon pour ce quintet. Un handicap qui réunira 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu, le numéro 15 ayant déclaré forfait. souvent vu à son avantage dans cette catégorie des quintés. Ayant terminé 5 fois à l'arrivée en 7 tentatives, Gris d'Argent, le numéro 4, sera sans hésitation mon préféré. Il aura pour lui son expérience, mais aussi sa parfaite condition physique actuelle. Dès lors, il devrait pouvoir une nouvelle fois conclure dans les 5 premiers. L'opposition sera conduite par Sagano, le numéro 8, facile lauréat en dernier lieu d'un handicap sur cette piste et dont les limites actuelles restent à déterminer avec le numéro 12, Imhotep, d'une régularité de métronome. Ensuite, je vous recommande les numéros 14, Charm King, à qui on ne peut rien reprocher, et 5, Charik, quatrième d'un quintet plus relevé le 20 mai à Longchamp et qui n'a qu'à répéter cette performance pour se retrouver automatiquement dans les 5 premiers. Enfin, les numéros 2, Oftenwork, 10, Acier et 16, Prince Anodin, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 8, 12, 14, 5, 2, 10 et 16.
Merci à vous Thierry Léger et tous vos pronostics sont sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
5h41, j'accueille la première invitée du 5-7. Bonjour Caroline Leboucher.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la directrice générale d'Atout France. C'est l'agence qui est chargée de promouvoir la destination France. Nos frontières rouvrent progressivement. La dernière annonce en date hier, les touristes américains vont pouvoir revenir sur le sol français, plus largement même en Europe, même sans être vaccinés. Elle est importante cette annonce ?
Alors déjà, il y avait une première annonce qui avait été faite par la France qui rouvrait ses frontières aux voyageurs américains vaccinés. Et vous savez qu'il y a un taux de vaccination très élevé aux États-Unis. Et donc, il y avait déjà eu immédiatement une reprise des réservations aux États-Unis. La France étant très très bien positionnée dans les intentions de séjour, notamment en Europe, puisque c'est la deuxième destination la plus prisée dans les recherches et les réservations pour cet été.
Pour cet été, les touristes américains, ça représente combien pour la France chaque année ?
Alors habituellement, nous avons plus de 4 millions de touristes américains qui viennent en France, 4,7 millions d'ailleurs en 2019. Et surtout, c'est en termes de recettes que c'est extrêmement intéressant. C'était en 2019, 3,4 milliards de recettes.
Ce sont des touristes qui dépensent beaucoup ?
Ce sont des touristes, effectivement, qui sont globalement à forte contribution et donc qui sont extrêmement prisés par l'ensemble des professionnels du tourisme.
Vous dites que les réservations ont déjà redémarré aux États-Unis pour venir en France. Pour cet été, quelles sont les régions qui vont en profiter tout de suite ?
Alors, ce sont les destinations les plus courues par nos amis américains. Évidemment, Paris, le sud de la France, Provence, Côte d'Azur font partie, bien sûr, des destinations qu'ils apprécient particulièrement.
Et pour Paris, j'imagine que ça revêt une importance particulière parce qu'on sait que beaucoup d'hôtels avaient fermé, que l'été dernier, les touristes étrangers ont énormément manqué à la capitale.
Oui, vous avez parfaitement raison. C'est vraiment le tourisme américain est extrêmement important pour Paris, notamment pour les hôtels 4, 5 étoiles, voire les palaces. C'est une clientèle qui leur a beaucoup manqué, y compris d'ailleurs la clientèle d'affaires américaine. Et donc, c'est une très, très bonne nouvelle que les Américains puissent revenir en France, en Europe.
Mais on est déjà à la mi-juin. Est-ce que cette annonce n'arrive pas un peu tard ? On peut se dire que beaucoup d'Américains ont déjà probablement prévu leurs vacances. Est-ce qu'ils vont vraiment être nombreux à venir en dernière minute comme ça en France ?
Écoutez, oui, parce que sur ce qu'on observe sur les différents marchés, que ce soit en France, en Europe ou sur les marchés long courrier, c'est que les voyageurs ont pris l'habitude de réserver en dernière minute. Et pour les Américains, notamment, qui apprécient particulièrement l'Europe ou la France, les réservations, effectivement, sont prises maintenant, pour cet été, pour l'automne également, qui se présente très bien sur le marché américain.
Le fait d'accepter ces touristes sans vaccination, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas un peu risqué en termes sanitaires ?
Écoutez, pour l'instant, les annonces qui ont été faites par la France à partir du 9 juin, c'était donc de placer les États-Unis en liste orange, c'est-à-dire d'accepter les voyageurs vaccinés avec un test PCR, les voyageurs non vaccinés faisant l'objet d'autres mesures. L'Europe, effectivement, aujourd'hui a annoncé l'ajout des États-Unis sur la liste des pays verts. Donc, voyons quelles décisions seront prises par les autorités sanitaires françaises qui sont les seules compétentes pour décider de ce qui peut être fait ou non.
D'où viendront principalement les touristes qui seront sur le sol français cet été ? À combien de pays aujourd'hui la France a rouvert ses frontières ?
Alors, ce qui était annoncé donc début juin, avec ce système de feux tricolores. Hein, c'est effectivement une réouverture pour tous les pays de l'espace européen. Et ça, c'est important parce que habituellement, c'est 75% des touristes internationaux qui viennent en France. Cette année, ce sera plus de 85%. C'est ce qu'on avait déjà observé l'année dernière. Donc, c'est évidemment très important. Et puis, au-delà des touristes européens, sont également pour l'instant en liste verte. Israël, par exemple, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour citer ses principaux marchés.
Et en termes de contingent de touristes, j'imagine que le gros contingent chinois manque encore pour l'économie du tourisme en France.
Exactement, même si les destinations européennes sont ouvertes sous réserve de proximité aux touristes chinois, comme vous le savez, effectivement, la Chine pour l'instant se montre extrêmement prudente dans la reprise des flux internationaux. Et donc pour l'instant, vu des autorités chinoises, l'Europe n'est pas encore une destination autorisée.
Quelles sont vos cibles, Caroline Leboucher, chez Atout France? Je rappelle que vous êtes là pour promouvoir la destination France à l'étranger. Quelles sont les campagnes que vous menez justement pour attirer les touristes? Quels sont les pays que vous ciblez?
Alors d'abord, nous travaillons sur le marché domestique parce que ça représente néanmoins 2/3 de l'activité touristique en France et encore plus évidemment depuis le début de la crise sanitaire, avec une campagne que nous venons de relancer au mois de mai, Je redécouvre la France avec nos partenaires. Et puis nous ciblons essentiellement les marchés européens, les 10 principaux marchés européens avec nos partenaires régionaux, avec une campagne qui cible à la fois les jeunes, les familles pour cet été, les couples sans enfants, les seniors pour l'hiver saison, autour du motif ce qui compte vraiment effectivement, c'est de se retrouver dans de bonnes conditions sanitaires, de trouver de grands espaces, la nature, qui sont plébiscités effectivement par les voyageurs cet été.
Les liaisons aériennes seront suffisantes cet été pour acheminer tous ces touristes? La reprise est là?
Alors, en ce qui concerne les voyageurs européens, pour l'essentiel, ce sont des marchés de proximité et donc plus des 2/3 viendront en voiture. La capacité aérienne remonte doucement, même s'il est encore nettement en deçà du niveau qu'elle avait habituel, qu'elle atteint l'été, et donc notamment à la base, c'est l'été 2019. Les compagnies aériennes s'adaptent très très vite aux intentions de séjour, au lever de restrictions à la mobilité, et donc je ne pense pas que ce sera forcément cela qui sera l'élément limitant.
Voilà, la saison touristique est donc lancée avec des touristes américains qui vont pouvoir venir. Merci à vous, Caroline Leboucher, pour ces précisions ce matin. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Atout France. Merci à vous, bonne journée.
Merci à vous, très bonne journée également.
Europe 1.
Il est 5h48 sur Europe 1 et on va parcourir la France. Pour la France bouge avec vous, Lenaïck Monnier, toujours à la recherche de belles initiatives un peu partout. Où est-ce qu'on va ce matin?
À la Maison Bleue, à Clairefontaine, où Corentin Tolisso, il y a quelques jours, a encore multiplié des petites attentions avec des bouts de chou handicapés avec lesquels il est très lié.
A tout de suite, vous êtes sur Europe 1, il est 5h48.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h49 sur Europe 1 et lorsque vous allez sortir ce matin, ce sera la nouveauté du jour. Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Dimanche, ça en sera fini du couvre-feu. Décision du gouvernement face à l'amélioration de la situation sanitaire. Et si la France revit, la Russie, elle, sévit. Obligation de vaccination à Moscou et dans sa région pour les personnels du secteur des services. Ils seront largement notés sur le contrôle continu, mais les élèves de terminale doivent tout de même passer quelques épreuves du bac. La première d'entre elles, c'est aujourd'hui, et c'est l'écrit de philo. Et puis l'étonnante consigne de Gérald Darmanin à la police, le ministère de l'Intérieur demande précisément 50 opérations de contrôle dans les quartiers les plus touchés par les rodéos urbains, avec saisie des deux roues et déclenchement de poursuites pénales.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
La France bouge avec vous, Lenaïck Monnier, et nous allons donc dans les Yvelines.
Dans
ce
la chambre de Corentin Tolisso, puisque l'ancien Lyonnais, là, il est en Hongrie, hein, puisque c'est là que vont jouer le prochain match des Bleus. Mais avant cela, il a réservé une petite surprise à ses jeunes fans. Depuis qu'il est tout petit, Tolisso est très sensible aux problématiques du handicap parce que sa maman a dirigé des centres spécialisés. Et quand il revenait de l'entraînement et qu'il passait la voir, eh bien, il se rendait bien compte de la chance qu'il avait. Et le jeune Tolisso, tout petit, s'est promis de faire quelque chose pour eux. un jour.
Alors, quand est-ce que ça a vraiment commencé ?
Alors, au premier confinement, il a organisé des visioconférences avec des jeunes en situation de handicap. Ils ont noué des liens, comme avec le petit Paul, 12 ans, qui vit à Bayonne et qui est atteint de trisomie 21. Ils échangent très fréquemment. Il a aussi appris le macaton, c'est ce langage, mi-langage des signes, mi-pictogramme, pour les personnes qui ne sont pas sourdes mais qui ont du mal à s'exprimer. Et c'est comme ça qu'il est devenu très proche de 5 ou 6 familles pendant tout ce laps de temps. Corentin Tolisso, qui travaille avec cette association, tous mobilisés pour grandir dire ensemble.
Bon alors, et quelle est la surprise ?
Alors justement, une visite de sa chambre à Clairefontaine, une petite vidéo, ça n'a l'air de rien comme ça, sauf que le joueur a tapissé ses murs de posters et de photos justement de ses nouveaux petits copains, ses petits héros du quotidien, c'est comme ça qu'il les appelle quand il les interpelle sur les réseaux sociaux, et surtout il a promis à ses petits protégés de leur dédicacer son prochain but. En langage des signes, justement. Le joueur du Bayern l'avait déjà fait en Ligue des Champions contre Chelsea. Et peut-être que le prochain, eh bien, ce sera samedi contre la Hongrie.
Voilà, si vous voyez Corentin Tolisso marquer et faire des gestes en langage des signes, vous saurez pourquoi et vous l'aurez entendu sur Europe 1. Merci Léna Hickmonnier, la France bouge. 5h52 et on va regarder ce qui anime les réseaux sociaux avec vous, Martin Lange.
Eh bien oui, Sébastien, c'est évidemment les annonces de Jean Castex hier, hein, fin du couvre-feu à partir de ce dimanche, mais aussi fin du masque en extérieur à partir d'aujourd'hui. Et sur les réseaux, eh bien ça donne ça.
Libéré,
ah non, je sais que vous l'adorez, Sébastien.
Ah, vous allez l'avoir en tête toute la journée.
Alors après 246 jours, plus de 8 mois, il sera enfin possible de sortir à n'importe quelle heure de chez soi sans attestation. Et c'est comme un immense sentiment de soulagement qui parcourt les réseaux. J'ai l'impression de sortir de prison, estime à vie. Cet internaute se prépare même à dormir dehors. En plus, lundi, c'est la fête de la musique, alors beaucoup espèrent en profiter jusqu'au bout de la nuit. Il y a quand même quelques rabat-joie. D'abord, les opposants du gouvernement qui trouvent étrange, pour ne pas dire démagogique, ces annonces à 4 jours des élections. Il y a aussi ceux qui ne sont persuadés que malgré ces bonnes nouvelles, on n'est pas encore au bout de nos peines. Karim, par exemple, pense que la partie est seulement ajournée. On la reprend en octobre, prédit-il, oiseau de mauvais augure.
Oh.
Enfin, certains internautes un peu taquins sont allés chercher la date d'anniversaire du Premier ministre. Figurez-vous que c'est le 25 juin, un vendredi prochain. Jean Castex voulait seulement fêter son anniv tranquille, croit savoir le très bien informé Curtis.
Voilà. Bon, nous, les matinaliers, on va faire nos rabat-joie parce que ça fait quand même beaucoup de bruit dans la rue, toutes ces histoires de terrasse. On a du mal à dormir le soir. Bref, l'autre grande nouvelle, c'est l'abandon du masque en extérieur. Et ça commence aujourd'hui.
Oui, et là aussi, Sébastien, tout le monde se réjouit. Pour Diane de Fortanier, c'est une excellente nouvelle car ça commençait à devenir critique pour le bronzage. On l'a tous remarqué avec ce soleil, les traces de masse, c'est un peu comme les traces de lunettes. Il y a quand même forcément des déçus et c'est l'agence France Presse qui les a trouvés en titrant « Fin de récréation pour les moches ». Et puis quand on parle de masque, il faut forcément prendre des nouvelles des anti-masques. Eh bien, figurez-vous que selon le compte Secret News, ils vont se mettre à en porter juste pour emmerder Macron. Merci à notre réalisateur Fabrice Lafitte
qui se régale. Alors, l'agence France Presque.
Je ne savais pas
que ça existait, voilà. L'agence France Presque.
C'est un compte parodique, évidemment.
Et voilà, c'est ça, la fin de récréation pour les moches à cause du masque. Martin Lange pour les réseaux sociaux, 5h54. Et l'histoire du jour de Christophe Ondelatte, l'histoire terrible d'Augustin, un agriculteur et éleveur de porcs dans la Somme, miné à la fois par des difficultés à avoir un enfant et épuisé à sauver sa ferme. Il se suicide à l'âge de 31 ans et laisse sa compagne veuve à l'âge de 24 ans. Le récit de son histoire dans Ondelatte raconte aujourd'hui. Vous écoutez Ondelatte raconte en podcast dès maintenant sur Europe1.fr ou tout à l'heure à 14h sur Europe 1.
Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Des solutions pour l'environnement chaque matin, notre planète. Ce matin, vous nous parlez d'une entreprise française qui fabrique des meubles en utilisant des déchets provenant de l'industrie.
Oui, en pleine reconversion écologique depuis 2018, l'entreprise Pierre Import s'est lancée dans la fabrication de meubles en bois recyclé. Elle s'est associée au conseil de l'intendance forestière qui émet des labels contrôlant la production du bois, sa transformation, sa distribution et son recyclage. Première bénéficiaire de ce label en France, Pierre Import garantit que 70% du bois utilisé dans ses meubles est de seconde main, c'est-à-dire qu'il est revalorisé d'un produit déjà existant. Les 30% restants viennent des déchets de l'industrie du meuble. L'entreprise complète ensuite sa stratégie verte en finançant la compensation carbone avec son partenaire Ecotri. Pour chaque achat de plus de 500 euros, un arbre est planté dans une forêt française.
Ouais, l'objectif étant de laisser ces arbres croître, parce que plus un arbre pousse, plus il a le temps de capter du carbone.
Alors, comme vous le savez, les forêts jouent un rôle primordial dans l'absorption du carbone qui se trouve dans l'air. C'est en prélevant ce gaz dans l'atmosphère que les arbres peuvent grandir. Mais cette absorption n'est pas illimitée. Dès que le bois est brûlé, le carbone qu'il avait capturé auparavant retourne dans l'atmosphère. On ne soustrait donc du carbone à l'atmosphère que si le bois a une longue durée de vie et si on continue de planter des arbres pour remplacer ceux qu'on a abattus. D'où l'intérêt de systématiser la démarche de Pierre Import. Non seulement il faut empêcher le bois de finir incinéré, d'où l'idée de le réemployer pour fabriquer de nouveaux meubles, mais il faut aussi maintenir, voire augmenter, la superficie forestière pour être certain qu'on participe à diminuer la quantité de carbone présent en excès dans l'atmosphère.
Alors il y a donc le bois, et le recyclage de mobilier peut aussi concerner d'autres matériaux.
Oui, tout à fait. Il y a l'exemple notable de Fabric, qui réutilise des chutes de vêtements pour faire des meubles. L'entreprise anglo-allemande Pentatonic se spécialise quant à elle dans l'utilisation et la réutilisation de polyéthylène très présent dans de très nombreux biens de consommation et facilement malléables. Il y a l'entreprise américaine Imeco qui réutilise de l'aluminium, alors que d'autres se servent de résidus de cuivre pour recréer du mobilier. Preuve que la circularité commence à se développer partout et qu'elle sera bientôt une règle absolue qui définira la stratégie de toutes les entreprises, autant par nécessité, car toutes ces ressources sont par définition limitées, mais aussi par souci d'image, car la gabegie n'est plus vraiment tolérable.
Fanny Agostini, Notre Planète. Merci à vous, 5h57.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous sur Europe 1 et merci de nous rejoindre au réveil. Nous sommes le jeudi 17 juin. Le 5-7 continue, on écoute le monde changer. Ce matin, on va regarder la rue changer et les visages changer. Oui, des visages sans masque et des sourires aujourd'hui.
Des bonnes nouvelles aujourd'hui, ça change, ça fait beaucoup de bien.
Ça va faire très bizarre de voir de nouveau des visages, des expressions et des sourires et même les gens qui font la tête.
Voilà, bah oui aussi, ça fait du bien de revoir des visages. Vraiment, le paysage va changer aujourd'hui. Vous allez le voir quand vous allez sortir de chez vous. Je vous donne un aperçu du programme jusqu'à 7h. À 6h40, je reçois la nouvelle présidente du Secours catholique, Véronique Devise. Elle prend ses fonctions dans ce contexte où la crise sanitaire a fortement touché les plus précaires. Elle vient nous dire quels objectifs elle se fixe avec ses 60 000 bénévoles. D'ici 7h, tous vos rendez-vous habituels et puis on écoutera un peu de musique évidemment. Il est présenté comme le guitariste européen le plus influent de son siècle. Hank Marvin avait le pouvoir de faire chanter sa guitare. Hank Marvin, le groupe The Shadows dans la partition d'Amblin Roche. À 6h20.
Shadows, Apache.
Ouais, et donc on est plutôt à l'ombre des orages.
Bon, je peux pas m'échapper de mes orages, mince, alors zut. Alors, ces orages, Bretagne, non, j'ai prévu un petit découpage. J'ai pas dit que j'allais le maintenir toute la matinée parce que franchement, c'est pas simple. Bretagne, Normandie, des pluies orageuses ce matin, ensuite vous aurez des éclaircies. Val-de-Loire, Berry, Île-de-France, Poitou-Charentes, Limousin, Orléanais. Là, nous avons eu des pluies, nous avons eu des orages et nous en aurons encore, notamment en Île-de-France. C'est-à-dire que sur l'Île-de-France, par exemple, ça va se calmer dans la journée et puis ça va reprendre ce soir et ça va reprendre aussi en Charente, en Anjou, dans le centre. La dégradation sera progressive sur Champagne-Ardenne et la Lorraine, ainsi que sur la vallée de la Garonne. Et puis à l'écart, un petit peu, un ciel lourd mais voilé, mais sans pluie, ou presque pas. Le bassin méditerranéen, là il ne pleuvra pas, mais le Midi-Pyrénées, peut-être quelques gouttes, le Massif central et tout. La région lyonnaise, vous savez qu'elle est placée en vigilance canicule en raison de forte chaleur sur Lyon. Il devrait y avoir 3 gouttes ce matin et encore même pas. Et puis de la chaleur ensuite. Voilà. Les températures maximales, certaines baissent, d'autres se maintiennent. Alors 22 à Caen, 23 à Bayonne, 24 à Bordeaux, oui, ça baisse là. 25 à Nantes, 27 à Limoges, 30 à Paris, on perd 3-4 degrés, 31 à Lille, 32 à Marseille et 34 à Lyon.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.